Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 26 février 2025. Au Burkina Faso, trois personnes ont été condamnées à perpétuité pour les attaques djihadistes de mars 2018 contre l'état-major et l'ambassade de France. Au Gabon, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 avril débute demain jeudi, marquant une étape clé vers la fin de la transition. Les sanctions contre le Rwanda risquent de freiner les pourparlers de paix entre Kinshasa et le M23, selon le ministre rwandais James Kabarebe, lui-même sanctionné par les États-Unis. Le conflit en RDC déclenche une vague de réfugiés au Burundi.
C'est des gens qui ont quitté déjà les camps de déplacés internes et pour traverser jusqu'au Burundi. Donc ils ont été plusieurs fois déplacés à différents endroits avant d'arriver finalement au Burundi.
Brigitte Hainaut, représentante du Haut Commissariat aux réfugiés au Burundi, fera l'état des lieux dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, Donald Trump réunit son premier conseil des ministres avec Elon Musk. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Trois personnes ont été condamnées à perpétuité pour une double attaque en mars 2018 au Burkina Faso. L'attaque qui a fait 8 morts et 85 blessés avait visé simultanément l'état-major des armées burkinabais et l'ambassade de France à Ouagadougou. Alexandrine Olignon.
8 accusés étaient jugés au pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a rendu son verdict mardi dans la capitale burkinabé. Ils étaient poursuivis pour actes terroristes, complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. 3 d'entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Ils ont notamment reconnu leur rôle dans cette attaque et leur appartenance à un groupe djihadiste. 2 autres accusés qui finançaient les activités du groupe et 1 troisième qui exerçait la profession de couturier au profit des membres du groupe ont été condamnés à des peines allant de 10 à 21 ans de prison ferme. Les 2 derniers prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute, selon le parquet. Le 2 mars 2018, la capitale burkinabé avait été ciblée par une double attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda.
Les autorités ghanéennes ont reçu du matériel de sécurité pour une valeur de 50 millions de dollars de la part de l'Union européenne ce mercredi à Accra, alors où une partie de l'Afrique de l'Ouest est confrontée à des attaques djihadistes régulières. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest s'est détériorée ces dernières années. Les groupes extrémistes violents liés à Al-Qaïda et à l'État islamique menacent d'étendre leur influence au Sahel, aux pays côtiers comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Au Gabon, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 12 avril débute demain jeudi. Les candidats doivent déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur entre le 27 février et le 8 mars. Nathalie Barge.
Les candidats doivent passer un test linguistique, un contrôle médical et répondre aux critères d'éligibilité fixés par la nouvelle constitution adoptée par référendum le 16 novembre dernier. Ils doivent avoir entre 35 et 70 ans, avoir renoncé à toute autre nationalité que gabonaise au moins 3 ans avant l'élection, résider au Gabon depuis au moins 3 années consécutives avant la présidentielle et parler au moins une langue locale. La caution est de 30 millions de francs CFA, soit environ 48 000 dollars. Parmi les personnalités dans la course figure l'opposant Daniel Mengara, la femme d'affaires Ninga Shanning, l'ingénieur Marion Minsa, le haut fonctionnaire Joseph Essingon, le président du mouvement Gabon en action Steve Ilaou et le journaliste Marc Ulrich Malekou. L'ancien premier ministre Alain Claude Billy Binze a commencé une tournée dans le pays sans être encore officiellement candidat. Le général Brice Oligui Nguema, devenu président de la transition après le coup d'État du 30 août 2023 ne s'est pas encore déclaré candidat, mais le nouveau code électoral autorise les militaires à se présenter sous condition de démission ou de mise en disponibilité préalable. La campagne électorale doit commencer le 29 mars.
Le ministre d'État rwandais chargé des affaires étrangères estime que les sanctions internationales contre le Rwanda pourraient compliquer davantage les négociations de paix entre Kinshasa et les rebelles du M23. Lundi, les dirigeants africains ont désigné les anciens présidents du Kenya et du Nigeria ainsi que l'ancien premier ministre éthiopien comme médiateur du processus de paix en cours. Le point avec Eric Manirakiza.
Lors d'un discours hier mardi, le général James Kabarebe a affirmé que les sanctions visant le Rwanda dissuaderaient le président congolais de participer à tout dialogue avec le M23. Il a également accusé Félix Tshisekedi de chercher à obtenir des sanctions internationales en échange de minerais. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, a déclaré que M. Tshisekedi avait invité les entreprises américaines à acheter des matières premières stratégiques directement à Kinshasa. Le M23, soutenu par des soldats rwandais selon des experts onusiens, a récemment pris le contrôle des deux plus grandes villes de l'est du Congo, Goma et Bukavu. Le Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe. Le Royaume-Uni a suspendu une partie de son aide au Rwanda et imposé de nouvelles sanctions diplomatiques. L'Union européenne a annoncé qu'elle réévaluerait ses accords avec le Rwanda sur les minéraux stratégiques en raison des liens entre Kigali et les rebelles. Le Rwanda nie avoir fourni des armes et des troupes au M23 et affirmer que ses forces agissent en légitime défense contre l'armée congolaise et les milices hostiles à Kigali.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est attendu en Somalie demain jeudi, une nouvelle étape importante pour mettre fin à des mois de tensions entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Après des mois de bruit, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé le 11 décembre dernier que les dirigeants somaliens et éthiopiens avaient trouvé un accord sous les auspices à Ankara pour mettre fin aux tensions entre les deux pays. Les ministres des Finances du G20, à l'exception de celui des États-Unis, sont réunis depuis mercredi au Cap, où le président sud-africain a mis en garde contre une menace pesant sur la croissance mondiale. Cette réunion, comme celle des ministres des Affaires étrangères la semaine passée, se tient à l'absence du principal représentant des États-Unis sur fond de crainte de guerre commerciale après les multiples augmentations des droits de douane décidées par le chef de l'État américain Donald Trump. L'île Maurice a fermé son aéroport international après que la météo a émis un avertissement de cyclone de catégorie 3 pour les îles de l'océan Indien, a déclaré l'opérateur de l'aéroport ce mercredi. Les agences météorologiques de l'île Maurice ont annoncé que la tempête tropicale Garance était en train de s'intensifier. Des vents atteignant 70 km/h sont attendus jeudi en début de journée et le service météorologique a demandé au public de ne pas s'approcher de la mer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a réuni son premier conseil des ministres ce mercredi, un peu plus d'un mois après son retour au pouvoir. Une occasion de définir et d'exposer les lignes qui doivent guider l'action de son administration. Mouamadou Mfa.
La réunion prévue à 11h heure locale, soit 16h GMT, permet à Donald Trump de discuter avec ses ministres, dont plusieurs ont déjà été confirmés par le Congrès. Le président s'est déjà posé en principal animateur de l'action gouvernementale, signant décret sur décret, avec une intention affichée d'étendre autant que possible ses prérogatives, en particulier face au Congrès. Parmi les sujets abordés, la réduction du déficit budgétaire. Le milliardaire Elon Musk, conseiller du président Trump, a indiqué au ministre qu'il fallait agir rapidement pour réduire le déficit. La question des denrées alimentaires, notamment des œufs qui ont explosé, et l'épidémie de grippe aviaire est aussi au centre des préoccupations. Le ministère de l'Agriculture investira jusqu'à 1 milliard de dollars pour enrayer cette crise et rendre les prix des œufs à nouveau abordables. Nous travaillons avec le ministère de l'Efficacité gouvernementale pour réduire des centaines de millions de dollars de dépenses inutiles. Nous réaffecterons une partie de ces fonds en investissant dans des solutions à long terme pour lutter contre la grippe aviaire qui a entraîné l'abattage d'environ 166 millions de poules pondeuses depuis 2022, a fait savoir le ministre Brooke Rollins dans le Wall Street Journal. Le Conseil des ministres devrait aussi être l'occasion de livrer de nouvelles orientations sur les activités du département de l'efficacité gouvernementale, chargé de réduire drastiquement les dépenses de l'administration fédérale. Cet organisme de conseil, rattaché directement au président Trump, dit avoir réalisé d'importantes économies sur le budget de l'État, mais ces activités ont donné lieu à plusieurs procès et protestations.
Les délégations russes et américaines vont se rencontrer à Istanbul mardi prochain pour discuter et rétablir leur mission diplomatique respective, a déclaré aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le Hamas a annoncé qu'il restituerait dans la nuit 4 corps d'otages israéliens morts en captivité dans la bande de Gaza, affirmant qu'Israël libérerait en contrepartie plus de 600 détenus palestiniens, ce qui mettrait fin aux échanges prévus durant la première phase du fragile cessez-le-feu qui s'achève samedi. Et puis Taïwan a annoncé aujourd'hui avoir déployé des forces au large de ses côtes en raison de manœuvres avec des tirs à munitions réelles organisées par la Chine qui en revendique la souveraineté. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, termine aujourd'hui une visite de 2 jours à Dakar au Sénégal. Les deux pays veulent consolider leur coopération, développer les partenariats et partager leurs expertises en matière de production, de raffinage et de distribution d'hydrocarbures, ainsi que dans la gestion des enjeux énergétiques actuels. Le Tchad va bénéficier d'un décaissement de 170 millions de dollars de la Banque mondiale afin de paver 55 km de route sur le tronçon Liwa-Rigrig et 12 km de voie d'accès raccordant la ville de Bol sur la transsaharienne. Les fonds serviront aussi à améliorer la qualité de 50 km de route rurale afin de renforcer l'accès à ces marchés reculés. Au Cameroun, l'inflation a atteint le taux de 5,3% en janvier, selon les dernières données de l'INS, l'Institut national de la statistique. Cet indicateur est en hausse, note le site Investir au Cameroun, et dépasse largement la prévision annuelle de 4% faite par le gouvernement cette année. La maîtrise de l'inflation restera un enjeu de politique publique centrale pour 2025, prévient l'INS dans son dernier rapport.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rougy. Bonsoir à tous.
Suite et fin ce mercredi des matchs retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026.
Oui, entre autres résultats, le Sénégal et le Congo se qualifient pour le tour suivant. À la suite des forfaits de leurs adversaires, les Sénégalaises devaient affronter les Tchadiennes et les Congolaises, les Malawites. Ça passe 1-0 pour la Namibie qui s'est contentée du service minimum devant l'Eswatini qu'elle avait battu 3-0 au match aller. La Tanzanie a fait match nul, un but partout contre la Guinée équatoriale, mais verra le tour suivant grâce à sa victoire 3-1 au match aller. Les rencontres du deuxième tour auront lieu en octobre prochain. Cette 16e édition de la CAN féminine réunira 12 équipes au Maroc pour la troisième fois consécutive en 2026.
Didier Drogba et Michael Essien défendent José Mourinho accusé de racisme.
L'ancien attaquant vedette ivoirien Didier Drogba et Michael Essien, son ex-coéquipier ghanéen à Chelsea, ont pris la défense de leur ancien entraîneur accusé de propos racistes par le club turc de Galatasaray. Le technicien portugais, entraîneur de Fenerbahçe, a déclaré lundi soir que le banc de Galatasaray avait sauté comme des singes en réaction à une décision arbitrale lors d'un derby houleux opposant les deux clubs rivaux d'Istanbul. Galatasaray avait aussitôt dit vouloir porter plainte contre le portugais. Croyez-moi quand je vous dis que je connais José depuis X années et qu'il n'est pas raciste et que l'histoire est là pour en attester, a écrit sur ex Didier Drogba qui a joué 3 années à Chelsea sous les ordres du Special One. L'ex milieu défensif ghanéen des Blues, Michael Essien, a lui aussi publié sur ex et Instagram une vieille photo de lui et Didier Drogba aux côtés de l'entraîneur portugais accompagné de 3 cœurs.
Basketball ici en NBA, Luka Doncic prend une revanche éclatante sur Dallas.
Le Slovène Luka Doncic, envoyé sans ménagement par Dallas aux Los Angeles Lakers début février, s'est déchaîné face aux Mavericks avec un triple-double, 19 points, 15 rebonds et 12 passes décisives et un succès 107-99. Les Memphis Grizzlies, eux, ont peiné pour s'imposer contre les Phoenix Suns 151-148 après prolongation avec 29 points du bondissant Ja Morant. Les Houston Rockets, 5e à l'ouest, ont dominé les Milwaukee Bucks de Gianni Antetokounmpo 100-97 malgré l'exclusion d'Amen Thompson, coupable d'un geste violent sur une action défensive face à Antetokounmpo. Cleveland, leader à l'est, a enchaîné un 8e et large succès sur le parquet d'Orlando 122-82 alors que Boston a étendu sa série de victoires à 6 à Toronto 111-101.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les violences en République démocratique du Congo ont poussé quelques 46 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, à trouver refuge au Burundi en 2 semaines, a indiqué vendredi l'ONU, qui s'attendait initialement à 58 000 arrivées en 3 mois. Eddy Sango, adjoint à Bujumbura, la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Henault.
À ce jour, nous parlons de presque 46 000 personnes qui sont arrivées avec les récents combats, plus particulièrement depuis la chute de Goma, ensuite de Bukavu. Il y a des gens qui ont quitté des zones aux environs de Goma et d'autres qui sont venus du côté de Bukavu et les environs.
Et dans quel état viennent-ils? Y a-t-il des blessés parmi eux, des malades, de femmes enceintes et autres?
Oui, absolument. Malheureusement, la population qui arrive actuellement est dans un mauvais état de santé, je dirais, parce que parmi eux, surtout à Rugombo, où nous avons plus de 40 000 personnes aux côtés de Rugombo, c'est des gens qui ont marché pendant très longtemps. Il y a des gens qui étaient déjà dans des camps de déplacés à l'intérieur du Congo, et ces camps ont été attaqués et démantelés. Et donc, c'est des gens qui ont quitté déjà les camps de déplacés internes et pour traverser jusqu'au Burundi. Donc, ils ont été plusieurs fois déplacés à différents endroits avant d'arriver finalement au Burundi. Et donc, ils sont arrivés dans un état de fatigue complète. Mais il y a également des personnes qui ont perdu des membres de famille ou qui ont perdu même des enfants pendant leur fuite. Nous avons même des dames, par exemple, ce matin, nous étions au niveau du stade de Rugombo, qui a été mis à disposition par le gouvernement du Burundi. Il y a une dame là-bas qui a perdu ses 2 enfants au moment de la traversée de la rivière de Rusizi. Donc, il y a des gens qui sont vraiment traumatisés de tout ce qu'ils ont vécu, d'abord au Congo, mais également même pendant la fuite, ils ont subi beaucoup de violences. Et donc, les médecins sur place, nous sommes en train de travailler avec MSF qui essaie de mettre en place une réponse médicale pour ces personnes qui sont traumatisées et qui ont été violentées.
Nous avons appris qu'il y a beaucoup de policiers et même des militaires qui fuient. Est-ce que vous le recevez? Je sais qu'il y a des restrictions, mais est-ce qu'ils sont au nombre de réfugiés qui arrivent au Burundi? Et qu'est-ce que vous en faites?
Le gouvernement du Burundi les a reçus. Ils ont été séparés immédiatement, d'abord désarmés à la frontière et envoyés vers un camp militaire. Donc, ils ne sont pas dans la population. Je dirais, c'est la première fois en plusieurs années que le Burundi n'a pas reçu autant de réfugiés en une fois. Dans le pays, actuellement, il y a des réfugiés congolais qui sont dans différents camps à l'est du pays. Et la population totale de ces anciens réfugiés, c'est autour de 90 000 réfugiés. Et ça, c'est depuis, pour certains, plus de 20 ans. Et même les autres années, on recevait au maximum, c'était autour de 3 à 4 000 personnes par an.
Brigitte Henault, représentante du Haut Commissariat aux réfugiés au Burundi.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Les étudiants en architecture et urbanisme à Nkongsamba, au Cameroun, estiment que l'architecture est la première étape consistant à identifier les problèmes sociaux. Grâce à ces études en architecture et urbanisme, ils nourrissent l'espoir d'une Afrique, particulièrement d'un Cameroun moderne où les infrastructures reflètent l'identité culturelle et où les jeunes jouent un rôle central dans le développement. Malgré les obstacles, ils demeurent optimistes quant à la transformation de leur pays. Nani Talani nous en dit plus.
Les ambitions que j'ai...
À l'Institut des Beaux-Arts de Kongsamba, Ivan Fosso, étudiant en architecture, rêve d'un Cameroun où la majorité des infrastructures seront modernes, développées par des urbanistes et des architectes locaux et qui reflètent aussi sa culture et son identité. L'architecture, souvent réduite à l'art de bâtir des structures, est en réalité bien plus que cela. Elle incarne profondément la culture, les croyances, les aspirations et l'histoire d'une communauté. Ivan Fosso.
Et si au final, dans un futur, à l'émergence 2037 par exemple, on arrive à avoir 80% ou 90% des bâtiments nouvellement construits au Cameroun qui ont été conçus par des architectes, on peut être sûr, ou des villes qui ont été pensées par des urbanistes et des architectes, on pourra arriver à avoir un Cameroun développé. Un Cameroun développé, avec des infrastructures développées, modernes, qui reflètent aussi notre culture et notre identité.
Cependant, Ivan Fosso regrette le fait que les jeunes au Cameroun sont souvent désespérés et manquent d'engagement. Il pense que si les jeunes se mobilisaient et s'organisaient en groupe, leur voix pourrait vraiment compter dans le changement.
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes au Cameroun sont dans un état de désespoir, il faut le dire, généralement. Ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas espoir d'un Cameroun meilleur. Et je pense que si les jeunes se mobilisaient et qu'on avait des groupuscules, des groupements de jeunes, peut-être par région, peut-être des organisations, des organismes jeunes qui œuvrent vraiment, je pense que leur voix pourrait compter.
Le Cameroun est en proie à un conflit séparatiste qui a déjà tué et déplacé des milliers de personnes. Ivan Fosso rêve d'un pays où les communautés vivraient dans un confort digne et dans un esprit de vivre ensemble.
Et mes espoirs pour moi-même, c'est que, déjà pour mon pays, c'est que le taux de chômage baisse, que la qualité de vie augmente, qu'elle soit beaucoup meilleure, qu'il y ait du bien-être dans les communautés, que les populations aient un minimum de confort.
Ivan Fosso fait partie des futurs professionnels africains qui croient fermement que l'architecture et l'urbanisme peuvent jouer un rôle clé dans le renforcement de l'identité nationale et l'amélioration de la qualité de vie des populations, ouvrant ainsi la voie à un Cameroun, mais également à une Afrique plus prospère et unifiée.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le gel des financements fédéraux a un impact sur l'industrie agricole américaine. Khan Farabao de la VOA nous en dit plus depuis l'état du Wisconsin, dans le Midwest. Le récit est de Thierry Kaori.
L'agriculteur Andy Hatch cultive et produit ce qui fait la renommée de l'état du Wisconsin.
Les vaches et le fromage, c'est vraiment ce qui a construit notre État et c'est toujours un élément extrêmement important dans notre économie avec un impact de 45 à 46 milliards de dollars sur notre État.
L'une des principales sources de revenus de M. Hatch est un fromage de spécialité qui vieillit sur des étagères dans son établissement.
Il vieillit pendant environ un an avant d'être vendu. Il attend ici son heure et devient délicieux.
Pour concurrencer les producteurs de fromage européens qui sont largement subventionnés par leur gouvernement, Andy Hatch doit moderniser et agrandir ses installations.
Pour être compétitif, nous avons besoin du soutien des institutions publiques, du gouvernement.
Monsieur Hatch s'est tourné vers le service de conservation des ressources naturelles de l'USDA pour obtenir un financement.
Nous avons demandé et obtenu un financement fédéral par l'intermédiaire du NRCS et ce financement était censé couvrir environ 25% d'un projet qui s'élèvera à plus $1 million.
Andy Hatch avait déjà dépensé environ $50 000 pour concevoir des installations modernes et respectueuses de l'environnement pour loger et nourrir les vaches qui produisent du lait pour le fromage, lorsqu'il a été informé en janvier que le financement des projets de conservation de l'USDA était gelé.
Nous n'avons pas commencé la construction et nous ne le ferons pas tant que nous ne serons pas sûrs que le financement qui nous a été promis se concrétisera.
Joy Tomald est directeur exécutif de la Dairy Grazing Alliance, qui dépend également du financement de l'USDA pour divers projets, notamment des programmes d'apprentissage destinés à former une nouvelle génération de producteurs laitiers et d'ouvriers agricoles.
Nous comprenons les objectifs de l'administration et nous assurons qu'il n'y a pas d'abus des systèmes. Nous espérons simplement ne pas en être une conséquence involontaire parce que nous sommes vraiment en phase avec ce que l'administration cherche à faire.
Andrew Stevens est professeur adjoint d'agriculture et d'économétrie appliquée à l'Université du Wisconsin. Selon lui, même si les fonds recommencent à affluer, les agriculteurs se méfieront de futurs remboursements.
L'incertitude liée à certains gels fédéraux va vraiment modifier la façon dont les agriculteurs prennent leurs décisions et remettent en question des choses que l'on tenait pour acquises.
Dans ses premiers commentaires aux journalistes, après avoir été confirmé au poste de secrétaire à l'agriculture de l'administration Trump, Brooke Rollins a déclaré que l'une de ses principales priorités était de s'attaquer au gel des fonds fédéraux.
S'il y a des agriculteurs qui attendent effectivement les paiements qui leur ont été promis, ils seront versés.
Malgré les retards dans le financement, l'USDA prévoit que le revenu agricole net global des États-Unis en 2025 augmentera d'environ 30% par rapport à 2024.
Dans Washington Forum cette semaine, les discussions entre l'Europe et les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine à l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion. Le président Donald Trump a exprimé l'espoir que la guerre touche à sa fin lors de sa rencontre lundi avec le président français Emmanuel Macron. Le dirigeant français met en garde contre une capitulation forcée de l'Ukraine. Parallèlement, Washington espère un accord qui lui donnerait l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection. Que vous évoquent les divergences entre les approches européennes et américaines concernant l'issue du conflit? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Alessandrine Rollognon et ses invités sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Kiev a accepté les termes d'un accord sur ses minerais avec les États-Unis que le président Volodymyr Zelensky pourrait signer dès vendredi. Ici même à Washington, le président américain a demandé à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser les milliards de dollars d'aide versée par l'administration de son prédécesseur. Ginny Niwa fait le point sur ses terres rares en Ukraine.
L'Ukraine a lancé l'idée d'ouvrir ses minéraux essentiels aux Américains et ses autres alliés dans l'espoir de se placer en position de force pour les pourparlers futurs et pousser Moscou à rejoindre à la table des négociations. Kiev souligne qu'il ne proposait pas de donner ses ressources, mais d'offrir un partenariat mutuellement bénéfique après que le président américain Donald Trump a émis l'idée de conclure un accord avec l'Ukraine.
Nous cherchons donc à conclure un accord avec l'Ukraine où ils vont sécuriser ce que nous leur donnons avec leurs terres rares et d'autres choses.
Les terres rares sont importantes pour la fabrication d'aimants à haute performance, de moteurs électriques et de produits électriques grand public. Monsieur Zelensky a déclaré que plus de 80% de ressources minérales n'étaient pas dans des zones occupées par la Russie et qu'il possédait les plus grandes réserves européennes de titane, essentielles pour l'aviation et l'industrie spatiale, et d'uranium utilisé pour l'énergie et les armes nucléaires. Jakob Kulik est analyste politique.
Quelques questions se posent. Tout d'abord, notre base de connaissances sur les ressources ukrainiennes, les terres rares, le titane, le manganèse et autres, n'est pas suffisante. Nous avons donc besoin de plus d'informations sur les produits de base qui se trouvent en Ukraine. Deuxièmement, un énorme problème pour les États-Unis est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises américaines capable d'extraire et de traiter ces éléments de terres rares, car depuis près de deux décennies, les entreprises chinoises dominent ce secteur. Il est donc facile de dire sur le plan politique qu'il faut aller chercher ces éléments essentiels en Ukraine. Mais d'un point de vue pratique, il n'est pas encore évident de savoir quelle entreprise est capable d'extraire et de traiter ces éléments rares.
La Chine représente environ 60% de la production minière mondiale de terres rares, mais sa part grimpe à 90% de la production des terres rares transformées et d'aimants. Écoutons la géographe Julie Michel Klinger.
Le terme terre rare fait référence à 17 éléments chimiquement similaires qui se trouvent l'un à côté de l'autre dans le tableau périodique, ce qui signifie qu'il est en fait très difficile de les séparer afin d'obtenir une concentration plus élevée, une forme pure de praséodyme ou de néodyme. Par exemple, deux éléments utilisés dans les aimants de grande puissance qui sont utilisés dans tous les domaines, des trains maglev aux turbines éoliennes en passant par les missiles. C'est donc en raison des défis, des risques liés à l'énergie, aux ressources et à la pollution qui sont associés au raffinage des terres rares que la production s'est concentrée historiquement dans un si petit nombre d'endroits.
Monsieur Zelensky a déclaré que Kiev et la Maison-Blanche discutaient de l'idée d'utiliser les vastes sites de stockage de gaz souterrain de l'Ukraine pour stocker du gaz naturel liquéfié américain. En outre, Moscou pourrait ouvrir ses ressources à ses alliés, la Corée du Nord et l'Iran, tous deux ennemis jurés des États-Unis.
Aujourd'hui, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.